Nous sommes mercredi 18 octobre 2017, c'est la Darksoulisation du Dojo Bar.
Bar!
Bar! Nintendo, c'est sûr que toi.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Merci Galaxies pour cette remarque qui nous fait chaud au cœur.
Bonjour.
En direct, bonjour. Bonjour Galaxies.
Bonjour.
Bonsoir Zergy.
Salut.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Et ce soir, nous allons voir un sujet un peu particulier. Corruption, darksoulisation du jeu vidéo. Ces jeux qui deviennent de plus en plus difficiles d'année en année. Que fait la police?
Elle vote Marine Le Pen.
Merde. Et là, c'est le drame. Merde, tout s'enchaîne. J'ai plus rien en stock. Julien Chiez.
Ouais, attends, mais balance le tour de table de l'actu, là, c'est ridicule.
Mais c'est l'habitude. Donc oui, le tour de table de l'actu. On va commencer par Zergy, parce que pour une fois, on va commencer dans l'autre sens. Donc on va commencer par Zergy, qui a une bien mauvaise nouvelle à propos du Humble Bundle. Alors, je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle.
Oui, moi aussi j'ai du mal à l'analyser, mais la semaine dernière on a appris que IGN avait racheté le Humble Bundle, donc on sait pas trop ce que ça va donner.
Bah, en fait, le plus gros problème c'est que pour l'instant on sait pas tellement si c'est un geste purement financier, c'est-à-dire que les mecs rachètent le truc parce que ça marche bien, mais il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, le Humble Bundle gagnait du pognon.
Ils ont gagné un peu, ils devaient se faire une commission quand même, enfin, je pense.
Sur toutes les ventes ils se font une commission.
Mais du coup... est-ce que c'est vraiment un Humble Bundle si de toute façon ils prennent une com sur toutes les ventes?
Bah il faut bien payer les employés et puis c'est un minimum, c'est pas du bénévolat, mais à part ça je pense pas qu'ils fassent des gros bénéfices.
Ouais, enfin s'ils font du bénéfice, c'est pas une question de bénévolat là, c'est de l'extorsion.
Bah c'est ce que fait Steam hein.
Mais non, Steam est une société qui se vante des milliards qu'elle gagne tous les ans, y a pas de souci. Le Humble Bundle à la base c'était quand même... Ah bah oui, nous on est des super gentils et on reverse tous les bénéfices à des œuvres caritatives.
Non, ils ont jamais mis tous les bénéfices et à chaque fois en fait on voit quand même le pourcentage de ce qu'on paye qui peut être versé. Après on peut choisir avec la petite réglette combien va être versé à chaque association et on peut même choisir de ne verser rien du tout à Humble Bundle dans mes souvenirs. Entre l'éditeur, l'association et le site. Mais bon, c'est pas non plus une part très grosse de ce dont je me souviens.
Alors non, mais c'était quand même... Enfin bon, c'est un peu bizarre parce que IGN, qui est à la base un géant de l'information, jeux vidéo notamment, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui, ils font énormément d'actualités de tout un tas de trucs. Il me semble que IGN, c'est pas CNET aussi? Ou c'est un concurrent de CNET? J'ai un doute à chaque fois.
Ah, peut-être.
J'ai un doute à chaque fois, hein. Je suis vraiment désolé si c'est pas un concurrent ou je ne sais quoi, parce que je me suis loupé. Ce qui sont des choses qui peuvent arriver. Mais je sais pas si c'est une très 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 bonne nouvelle, c'est un petit peu comme si GOG était racheté par Webedia, quoi. C'est quand même un peu malsain d'avoir des vendeurs de jeux vidéo qui s'associent à des magazines de jeux vidéo, parce que ça veut dire que il va y avoir des copinages un peu malsains.
GOG, ils appartiennent quand même à CD Direct Project, hein, donc ils appartiennent à un développeur.
Ils appartiennent à un développeur, mais techniquement, ils appartiennent pas à un organe de presse qui est censé parler de manière objective du jeu vidéo.
Ouais, en plus,
IGN, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de parler que du jeu vidéo.
Puis ça fait assez longtemps qu'ils ont arrêté de parler de manière objective.
Aussi. Après, c'est les Américains, ils ont toujours une tendance à noter plus enthousiastes que les Français.
Bah, c'est-à-dire que les Français ont tendance à noter moins enthousiastes que tous les autres, donc c'est compliqué.
Ah, on m'a raconté que, genre, pour quelqu'un qui a une culture, on va dire, nord-américaine, canadien ou un américain, une note comme 7 sur 10, c'est une sanction, alors qu'en France, on considère que c'est une bonne note.
Bah, on considère que c'est une... voilà, Galaxies, pour la fabuleuse, le fabuleux exposé que tu as demain, dont tu dois rédiger la conclusion, est-ce que tu considères que si tu as 7 sur 10, c'est une bonne note?
Bah ça dépend. Parce que, si tu veux, il y a tout ce qu'il y a autour. Dans le cadre d'un test de jeu vidéo, c'est compliqué, parce que la note, elle est censée... comment dire? La note et le contenu du texte s'orientent l'un l'autre, c'est-à-dire que si t'as un 5 sur 10... Quoi? Mais non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire un 7 sur 10, ça veut rien dire si à côté de ça, il dit c'est un jeu moyen, il est dans la norme, voilà, il est pas horrible, mais il fait rien de nouveau, tu peux attribuer un 7 sur 10. Et dans ce cas-là, bon, le 7 sur 10, c'est pas terrible. À côté de ça, Sith, c'est un 7 sur 10 de... Ça a tenté des trucs, mais c'est pas fou dans ce que ça tente. C'est un 7 sur 10 qui est plus positif, quoi. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire, ça dépend vraiment du contenu du cast.
Un jour, il faudra qu'on fasse un truc sur les... Il faudra qu'on fasse un truc sur les notes de jeu, parce qu'effectivement, il y a un côté très problématique aux notes. On avait déjà fait une petite émission là-dessus, mais ça mériterait, à mon avis, d'en remettre une petite couche. Bref, Monsieur Drosgar a donc une actu.
Oui, alors, en fait, j'ai été un peu sur le cul lorsque je l'ai appris il y a environ 20 secondes. Début janvier 2018 va commencer le tournage d'un film Pokémon, mais justement un film Pokémon avec des vrais acteurs. Et c'est pas un film Pokémon, comme on pourrait imaginer, ça sera un film Pokémon sur Détective Pikachu. Ouais, alors, dit comme ça, c'est pas paraît bizarre, et ça a l'air vraiment bizarre. Mais putain, depuis que je viens de le lire, je suis vraiment hypé, je commence à trembler, je suffoque. Ou alors je commence à faire peut-être une crise cardiaque.
C'est ta première érection.
Ah, c'est ça, je deviens enfin adulte. Mais en vrai, du coup, ça sera tourné à Londres, et ça sera basé en partie sur le jeu japonais là qui va sortir, Great Detective Pikachu, qui est déjà lui-même assez bizarre. Enfin, c'est un Pikachu qui doit mener l'enquête dans un monde d'humains, c'est vraiment particulier comme ambiance, et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Mais vraiment hâte ou hâte de voir comment ça va se gaufrer ?
Non, vraiment hâte, et je pense que j'irai même le voir au ciné. D'ailleurs, il y a le film Pokémon Je te choisis qui sort le 5 novembre, ou le 6 novembre, en salle de ciné, hein, qui retrace justement le début de l'aventure de Sacha, donc qui peut correspondre aux premiers épisodes de la série, mais en bien dessiné. Je pense que je vais aller le voir avec des copains, parce que je me respecte pas trop, en fait. Ma chérie, si tu m'entends, je vais pas le faire, c'est pas vrai. Hein.
Galaxies, on te banne. Sinon, on va avoir des tas de vingtenaires faire la queue devant le cinéma.
Mais
quand ça va sortir, ça va être drôle.
Des gamins et des mecs de 25 ans, en général, je pense.
Bah, c'est le genre. De toute façon, le public qui est attiré aujourd'hui par un film Pokémon, c'est quand même plus de. C'est plus vraiment du pré-ado, c'est plus des ados et éventuellement des adolescents et des jeunes adultes.
Ah oh bah pas spécialement, il y a aussi à travers la série animée qui est diffusée encore des jeunes, n'est-ce pas
Des jeunes.
De ton âge?
Plus jeunes que moi, qui sont encore à fond dans la série Pokémon. Hein.
Sans s'intéresser aux jeux vidéo, en s'intéressant aux jeux vidéo, il peut y avoir deux publics différents.
Ah non,
pour ça,
en s'intéressant aux jeux vidéo, d'accord. Je pense que l'animé Pokémon, de par sa longévité, a quand même amené pas mal de monde à jouer à Pokémon et à s'intéresser à l'univers. Et ils sont devenus peut-être pas fans, mais ça les intéresse quand même.
D'accord, donc c'est le genre de truc où penser qu'un truc aussi farfelu, ça peut marcher, quoi.
Ah, je pense.
Enfin, ça pourrait attirer suffisamment de curieux pour ouais. Pouvoir éventuellement être rentable, par exemple.
En jouant ne serait-ce que sur la nostalgie, quoi. Enfin, je veux dire, le premier générique et la première saison, il y a... Tous ceux qui s'intéressent à peu près à Pokémon le connaissent, même si personnellement j'ai pas vu toute la saison 1, mais bon, enfin voilà quoi. Je connais quand même, donc je pense que ça peut vraiment attirer un public de gérer entre, je sais pas, 30 et 10 ans. La génération Pokémon à maintenant quoi.
Non, tu ratisses large là.
Surtout que pour Pokémon, ils ont refait le début de la série en film récemment.
Ils ont refait le début de la série en film, c'est-à-dire le l'épisode pilote de la
ouais,
série animée, ils l'ont fait en
ça,
film.
Mais c'est ce que je viens de dire.
Mais oui, c'est le film Pokémon Je te choisis.
Ah, c'est ça.
Mais voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure.
Non, mais justement, il y a les deux. Il y a Detective Pikachu où là, on vient juste d'avoir la news, donc où il va y avoir un retournage avec des vrais acteurs. Et après, il y a le film d'animation Pokémon Je te choisis qui retrace le début de la série animée. Et qui lui sort dans 2 semaines.
Putain, mais ils viennent d'annoncer maintenant un truc qui sort dans 2 semaines. Non,
ça fait un moment qu'on le sait déjà, mais c'est le tournage de Detective Pikachu qui va être annoncé.
D'accord, ok, putain, j'étais confusé.
Ouais, c'est compliqué.
Excusez, c'était confusant. Monsieur Antix, qui avait une petite nouvelle en mode otak, hein, je cite.
Mode gros otak, puisque a été diffusé hier, comme Nintendo fait souvent, avant les sorties de ses jeux, les bandes annonces de lancement de Fire Emblem Warriors, en Europe et aux États-Unis. Alors, celle européenne est assez simple et présente les modes de jeu un peu bêtement. Alors que de son côté, la bande-annonce américaine, en fait, donne quelques petits détails sur le contenu téléchargeable. On avait appris pendant le TGS, notamment, que le jeu allait avoir 3 DLC consacrés à chacun des 3 épisodes de la série présents dans ce Fire Emblem Warriors sont Shadow Dragon, Fates et Awakening. Donc un DLC pour chaque jeu avec 3 personnages, 3 cartes pour le mode, l'équivalent du mode aventure, je sais plus comment il s'appelle, et 2-3 costumes en rab. Et surtout que on aurait accès à un DLC gratuit à la sortie du jeu qui permettait d'avoir les voix japonaises.
Donc on va pouvoir faire les gros AVT. Oh, ite kudasai!
C'est ça. En fait, on va pouvoir rien comprendre à ce qu'ils disent, et ce sera tant mieux. Sachant que c'est plutôt une bonne chose, vu qu'ils avaient dit à l'E3 enfin, que ce serait anglais uniquement. Et peut-être...
Ah, Yamete kudasai!
Et peut-être que pour Xenoblade 2, on aura encore plus de Yamete kudasai, que peut-être qu'on aura aussi le droit à un DLC.
Nani!
Nani! Donc,
Nandato solewa!
Oh là! Yuna, Anno Kanonandeska.
Ah, Mortal Sama.
Voilà, alors par exemple, là, vous voyez, ça veut rien dire, mais ça fait japonais. Et ça fait plaisir.
Exactement.
Exactement.
Est-ce que vous pensez qu'on aura droit à la traduction Ken le survivant?
Oui. Ah, du couteau de cuisine.
Ah ah, Marf, je suis le méchant, je vais me venger.
Et toi, tu es le gentil. Par l'école du couteau de cuisine, je couperai vos jarrets. Moi, personnellement, je serais prêt à payer pour un DLC traduit par l'équipe originale de Okuto no Ken.
Tu veux qu'on se tire l'oreille?
Non, ça, c'est Metal Gear Solid.
Oui, je sais.
Metal Gear!
Mais c'est peut-être pas le même... je sais pas si c'est... Non, mais à un moment,
non, mais c'est la traduction foireuse, quoi.
Non, c'est la traduction extraordinaire. Non, la traduction,
c'est bien le doublage français.
C'est la traduction de qualité.
Bien le doublage français, faut juste que ce soit bien fait.
Non, alors je vous rappelle que quand vous regardez un film de merde ou que vous jouez à un jeu de merde, il faut absolument y jouer en français pour profiter des doublages de qualité. Ça fait vraiment partie des règles de base du truc.
Mais sans déconner, on a les meilleurs doubleurs en France.
Oui, ce qui est assez flippant quand tu regardes certains films.
On a une vraie tradition du doublage.
Ah, mais je sais qu'on a une vraie tradition du doublage, mais tu sais qu'il y a des films... Alors moi, je vous encourage, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, je vous encourage à regarder Demolition Man en anglais, en français et en italien. C'est un studio franco-italien qui a réalisé l'adaptation. Alors, c'est de l'adaptation et le doublage. Le film en anglais n'est pas drôle. Alors qu'en français, il est marrant.
Moi, je vous conseille beaucoup SS-117, les deux films en VO, plutôt qu'en VF, parce que la VF est vraiment pas terrible.
Ouais, c'est vrai. En plus, je sais pas qui a doublé Jean Dujardin, mais c'est vrai qu'il a une voix qui colle pas trop.
C'est très très lourd.
Et juste dans la VF, pour rester une petite parenthèse, c'est pour ça que je ne comprenais pas sur les blagues du nom ridicule de Dark Vador à la fin du 3 de Star Wars.
Parce qu'en.
Tu sais, le nom ridicule.
Ouais,
voilà, mais ultra auto-tuné, tu vois, en anglais. Sauf qu'en VF, il sonne beaucoup, beaucoup mieux.
Oui, oui, effectivement.
Et donc, du coup, je n'ai jamais compris cette blague. J'ai fait, mais attends, mais il est pas si ridicule que ça. Et en fait, en VO, si, il est extrêmement ridicule.
D'accord, mais c'est bon à savoir, parce que moi, je l'ai vu en VO, mais ça m'avait pas frappé. Parce que...
ça fait genre...
Après, les Américains, dès qu'on parle de Star Wars, c'est comme si on avait touché au drapeau. Hein.
Mais vraiment, je vous invite à voir des comparaisons. Il y a des vidéos de comparaison sur YouTube dans différentes langues. D'ailleurs, en turc, ça fait Hallo. Voilà, c'est très drôle.
C'est une imitation ratée du
Turc. Star Wars.
Non, vraiment. Il dit Areux et il gueule. Et en allemand, ça fait
Non.
C'est tellement drôle. Et donc, du coup, on compare et on voit vraiment que la VF est beaucoup plus. Plus réussi, beaucoup plus mieux.
Alors c'est con parce que c'est à peu près le seul truc de la VF des Star Wars récents qui est réussi, hein, parce que
leur adaptation. N'importe quoi, la voix d'Obi-Wan elle est magnifique.
La voix d'Obi-Wan c'est peut-être un des autres trucs réussis, d'accord, très bien, mais le reste c'est de la merde.
Et les doublages des sabres laser sont excellents.
Les doublages, les bruitages sont très bien, mais l'adaptation française des derniers. Je suis désolé, hein, y a plus de sabres laser, il n'y a plus de Millennium Condor. Y a plus de Z6PO, il n'y a plus de Chic Taba. Moi je suis désolé, hein, mais.
C'était mieux avant.
Il s'appelle de nouveau Han Solo et pas Yann Solo. Je suis désolé.
Attends,
il
s'est vraiment appelé Yann Solo à un moment donné.
Dans la VF officielle, c'est Yann Solo. Hein.
Mais oui. C'est incroyable. C'est encore un coup des Bretons.
C'est complètement fou.
Putain, saleté de Breton indépendantiste.
Il s'appelait pas Kerr Solo. Il s'appelait Han
Solo. Kerr Solo, putain. C'est ça que j'appelle ma baraque, tiens.
Je m'appelle Yann Solo. De Kerk.
Bref. Alors, si un jour j'ai dit que le jour où j'arriverai à faire construire ma maison enfin, je la baptiserai même si ma femme est pas d'accord et je l'appellerai Millennium Condor. parce que c'est
ah, d'accord.
Parce que j'ai aucune race.
Ou alors millennials qu'on dehors.
Ah non. Ah non, pas ça. Pas ça, pardon, excusez-moi. C'est sorti tout seul, je suis vraiment désolé. Je vais terminer ce tour de table de l'actu rapidement par deux petites choses. D'abord, c'est la mise à jour 1.3.2 de ARMS, comme nous le rappelait Quan Chin très gentiment juste avant l'émission. Donc effectivement, il faut en parler.
Il y aura des badges. Badges.
C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'il y aura des badges. Donc il y aura des badges qui sont une espèce d'achievement interne. Et il y a un autre truc que j'ai plus en tête. Et merde, ça m'a échappé. Bon, la principale nouveauté, c'est qu'il y a des badges. Non, il y a les replays aussi, qui n'y avait pas avant.
Voilà. Dark Souls.
Non, pas ça. Non, mais les replays, c'est vachement sympa, parce qu'effectivement, c'est un des trucs que... Alors, je sais pas si on pourra les enregistrer, ou si c'est simplement tu pourras les regarder. Ce que je trouve très con dans un FIFA 18, auquel j'ai pas mal joué ces derniers temps, pour foutre une race à Quan Chin aussi, d'ailleurs, mais comme on peut pas jouer entre amis, bah je peux pas. T'as les replays, c'est-à-dire qu'à la fin d'un match, tu peux, tu vois, dans moment fort, et tu as tous les tirs cadrés, même les plus ridicules, d'ailleurs. Tous les buts que t'as marqués, les beaux arrêts du gardien, enfin c'est un peu cool quoi. Sauf que tu peux pas juste enregistrer ton favori en disant ouais celui-là c'était rigolo parce que j'ai vraiment bien bien baisé tout le monde. Bah tu peux pas l'enregistrer donc t'as l'air con. Et ça je trouve ça.
Et
triste.
Tu te roules en boule et tu tombes en dépression.
Et tu pleures. j'espère que ARMS 3.2 permettra d'enregistrer ses replays préférés, même si c'est façon Mario Kart genre les 6 meilleurs ou les, enfin c'est que les 6 derniers ou je sais pas quoi. Ça peut quand même être intéressant. Sinon, effectivement, tu faut que tu essayes de pas pleurer, puis tu te roules en boule et tu pleures. Voilà, ça fait partie des...
Le mec qui surréagit.
Pas du tout. Et la deuxième petite nouvelle, c'est que nous avons enfin une date de sortie très importante, hein, qui fait qu'on va avoir une émission dédiée très importante ce jour-là. Le 10 novembre 2017, c'est ce qui se passe.
Alors, c'est un jour avant l'armistice.
Ah, bien.
C'est le lendemain du 9 novembre.
C'est la Super bien. Nintendo 64 Mini qui sort.
Presque. Non, il y a Doom.
Ah oui.
Voilà. Doom. Donc il va falloir qu'on fasse une émission spéciale Doom. Alors, je sais pas si
Doom
on va
dans
faire
tes
une,
chiottes.
Une... Voilà, Doom dans tes chiottes, Doom sur
Doom
ton canapé,
dans ton lit.
Doom sous ton lit. Doom partout, quoi.
Doom à l'envers,
attends,
Doom solo.
Quand j'amène les gamins au parc et que je me fais donc chier comme un rat mort...
Il y a tous les gamins qui l'entourent pendant que lui joue à Doom. Il va tous les traumatiser au parc.
Moi, je rappelle que j'ai quand même fini Fire Emblem... je sais plus. Enfin, j'ai fini les deux Fire Emblem sur Game Boy Advance, le Fire Emblem sur DS, au parc, hein, avec les gamins, tellement on se fait chier. Donc quand je me ferais chier au parc avec les gamins, bah là je me ferais pas chier parce que je pourrais jouer à Doom.
Voilà,
sur le
Doom à l'envers.
Nintendo
Doom,
Jo,
Doom,
le site qui dénonce.
Non mais c'est très bien. Donc je pourrais me mettre sur le toboggan des petits et glisser et jouer à Doom en même temps. Donc, et terroriser les gamins en leur montrant Doom.
La voilà. Formation la plus importante de ce tour de table de l'actu, je la rappelle, on se fait chier au parc.
Oui, mais, c'est... mais attends.
Tu peux mettre la musique, pas de temps.
Attends, attends, un jour tu auras des enfants. Hein, il faudra que tu les emmènes au parc. C'est des enfants et que quand ils sont enfermés, bah, ils vont te casser les couilles. Donc là, ils te casseront les couilles tout pareil, mais dehors. Et du coup, bah, moi personnellement, quand ils gueulent comme des porcs, mais que c'est dehors, ça me dérange moins.
Et on pourra allumer, voilà. On pourra avoir une petite pensée émue à Satoru Iwata qui aura permis à la Switch d'exister pour nous occuper.
Putain, mais carrément, mais comment on te kiffe, tonton Iwata, là, tu. De là-haut, j'espère que Big Up, tu nous suis tous, parce que là, franchement, on te kiffe là, on te kiffe à la race. Bref, pause musicale, nous allons écouter un thème que nous n'avions jamais écouté jusqu'à présent, ce qui est quand même... Enfin, d'habitude, il y a un morceau différent à chaque émission, mais celui-là, je suis très étonné de ne jamais l'avoir passé, en fait, parce que c'était partie des thèmes de la NES que je préfère. C'est un jeu Sunsoft, qui est sorti sur NES. C'est Journey to Silius, qui est un jeu plutôt obscur, en fait... qui commence à avoir une petite réputation outre-Atlantique, mais qui alors, en Europe, est pas du tout connu. Alors, ça a peut-être un rapport avec le fait qu'il est sorti qu'en Italie et en Autriche. La distribution de Nintendo Europe, toujours au top de sa forme.
Ah oui, mais ce qui...
Ça n'aide pas.
Ce qui encourage pas la diffusion, oui.
Et pourtant, c'est un jeu Sunsoft, donc c'est des bases Sunsoft. Enfin bref, c'est un très très bon thème. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Voilà, c'est bon, c'est bien. Donc on parlait du fait que putain Sonic c'est de la merde, arrêtez avec ça.
J'avoue.
Sonic Lost World, j'ai réussi à finir un niveau sans toucher, c'est-à-dire que j'ai vraiment posé le gamepad sur la table basse, j'ai attendu. Ça a fini le niveau. Voilà, Sonic c'est ça. La merde. La grosse merde.
Qui est en soi une expérience de jeu pas très compliquée, contrairement au jeu qu'on va aborder, transition.
Moi, un jour, j'ai dit genre j'aime pas trop Mario, et on m'a dit bah du coup essaye Sonic 3, ça va te plaire, et bah j'aime vachement.
Petite merde.
Vanille,
mais attends, on le paye.
En soi, Sonic Boom, c'est le Dark Souls des bons jeux. Hein.
Oh putain.
Putain, mais ce gag va devenir tellement lourd, tellement vite en fait.
Je crois qu'on va l'arrêter tout de suite, donc on va peut-être passer au sujet.
Alors, on va passer au sujet, faut juste que j'arrive à. Ah putain, je fais de la merde. Bref, c'est pas grave. Donc, le sujet du jour concerne la difficulté dans les jeux vidéo, c'est-à-dire est-ce que la difficulté est perçue différemment en fonction par exemple du type de jeu ? Commencer par poser des questions un peu bêtes. Et la première question que j'ai envie de vous poser, en tout cas la première affirmation que j'ai envie de faire, c'est est-ce qu'un jeu punitif est nécessairement difficile et inversement ?
Non.
Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la
question. C'est quoi la question ?
Vous pouvez répéter la question ?
Je vais répéter la question. Est-ce qu'un jeu punitif est nécessairement difficile ? Est-ce qu'un jeu difficile est nécessairement punitif ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop souvent une confusion entre les jeux qui sont très punitifs et des jeux qui sont très difficiles.
Je vais te répondre en trois parties.
Je veux bien que tu... En thèse, antithèse, foutaise, j'espère que c'est le seul trois parties que je connais. Je m'explique, un jeu comme Shovel Knight n'est pas un jeu facile, c'est même plutôt un jeu difficile, mais il n'est pas punitif.
J'avais Stone Boy aussi en tête.
Ah mais attends, mais voilà, quand tu dis punitif, c'est au niveau de la mort, on est d'accord.
Qu'est-ce que la mort, pas forcément.
D'accord, parce que moi, quand on me dit un jeu punitif, c'est un jeu genre tu meurs, tu réapparais 15 minutes en arrière et vas-y retape-toi tout.
Voilà, ça par exemple c'est très punitif. Effectivement, ouais. C'est-à-dire que. Mais en même temps, si il te faut 35 coups pour mourir et qu'on te file plein de vie et tout ça, le fait que tu recommences 15 minutes en arrière, c'est quand même un peu de ta faute. En fait, c'est punitif ou pas ?
Non, en fait, le truc c'est que. Enfin, moi je le comprends comme ça. Quand tu dis quelque chose, un jeu punitif et la difficulté d'un jeu, ça, si tu veux, c'est deux trucs qui sont différents mais qui se rejoignent au milieu.
Pas
dans le sens où.
Non, si, pas forcément, moi, mais.
Attends, c'est-à-dire. Laissons finir Galaxies. Ouais. Puis on essaiera de voir après pour.
Dans
le
sens développer. Où, dans l'exemple que t'as donné, si un jeu. Il donne, il donne 35 vies. Les ennemis sont pas durs, machin. C'est un jeu qui est, enfin, les ennemis sont pas compliqués à battre. C'est un jeu qui est pas punitif et qui est pas non plus dur. D'un autre côté, comme je disais, par exemple, les points de sauvegarde, c'est un élément qui intervient pas dans la difficulté même du jeu, vu que tu peux progresser très rapidement, mais si tu meurs, bah tu réapparais une demi-heure en arrière. Mais c'est punitif. Tu vois, je veux dire, ça se rejoint en certains points.
On est beaucoup plus dans des problèmes d'expérience de jeu, d'expérience utilisateur au sens propre, plutôt que dans des problématiques de difficulté. C'est-à-dire le fait de dire les checkpoints sont très mal placés dans le jeu, c'est un problème d'expérience utilisateur, c'est pas forcément un problème de difficulté. Ça veut pas dire que le jeu est difficile, ça veut dire que si tu te loupes, tu as une expérience de jeu dégradée dans le sens où c'est agaçant parce qu'il faut que tu te retapes toute une partie de niveau, pas toujours très intéressante en prime.
Oui, ouais, voilà, en fait, c'est le souci de la difficulté, c'est que déjà, il faut se poser la question pour quelles raisons le jeu est difficile. Parce qu'un jeu peut être difficile pour des bonnes raisons comme des très mauvaises. Ça peut être un tout signal comme dans un Meat Boy où on a effectivement des pièges difficiles. Ou ça peut être parce que juste la façon dont le jeu est calibré, les hitbox, la gestion des sauts ou même la puissance des ennemis fait qu'en fait c'est juste super dur, mais parce que les mecs ont fait l'équilibrage avec les pieds quoi. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait que la difficulté et la punition se rejoignent à un moment. Parce qu'un jeu peut être difficile pour des raisons qui ne sont pas du tout justifiées par le design du jeu. Alors que la punition généralement va l'être.
Toi, tu penses que la punition est nécessairement un élément de game design, c'est-à-dire que le fait qu'on aille dire « écoute, t'as mal joué, tu t'es planté au boss de fin, on va te faire recommencer le boss rush », j'ai quelques exemples qui me viennent en tête pour les gens qui ont fait Illusion of Time,
ouais.
comme c'est un jeu quintet, à la fin il y a un boss rush, parce que c'est un jeu quintet, Voilà. Donc tu te refais tous les boss du jeu. Et en fait, il y a il y a 6 boss dans le jeu, plus le boss de fin, évidemment. Et donc, est-ce que le chat peut fermer sa gueule, décidément, ce soir, là? C'est quand même... D'accord.
Oh, il t'a répondu, non, mais... c'est trop mignon.
Non, mais elle a mal au cœur, ou elle est perdue,
ça, ça me fait chier. Elle a une voix vachement grave.
Elle va chercher, putain.
Incroyable.
Incroyable, bref. Dans Illusion of Time, tu as un boss rush, c'est-à-dire que tu te refais en fait les 6 boss du jeu plus le boss final. Et en fait, tu as une pause pour sauvegarder après les 3 premiers boss. Donc, en toute logique, les premiers boss, quand tu les as battus la première fois, voilà, t'avais pas beaucoup de points de vie, ils en avaient pas beaucoup, ça se passait bien. Là, ces connards, ils ont mis les points de vie max à tous les boss. Ça fait que si tu te plantes au 3e boss, qui est un des plus difficiles du jeu en prime, tu te retapes tout, le premier, le deuxième, et t'as pas la possibilité, évidemment, de regagner de la vie entre deux, tu vois. Donc faut que tu te tapes le truc comme ça. Est-ce que ça, c'est punitif, par design, mais est-ce que c'est pas aussi complètement con? C'est quand même une...
Non,
une
question à se poser. Je pense que c'est plus la question qu'il faut se poser, si c'est pas complètement con.
Voilà, c'est ça.
Non, mais voilà, mais tu vois...
La punition peut être stupide, comme la difficulté peut être stupide parce qu'ils l'ont mal fait. Mais pour moi, c'est deux choses, en fait, qui sont différentes. Même si, comme... Enfin, quand même différente, ça peut se lier à la fin selon ce qu'ils veulent faire. Et tu peux choisir que effectivement la punition de la mort par le design, c'est tu perds ton expérience,
tu perds tous tes objets,
ton personnage ne revient pas à la vie, ce genre de truc. Ou tu peux choisir que bah, le gars Game Over commence comme dans tous les triple A actuels.
Mais c'est-à-dire que pour toi Antix, le fait qu'un jeu soit punitif, c'est voulu, et la difficulté, ça peut venir d'une erreur de design.
Non, les deux peuvent être voulus, mais elles sont pas forcément liées en fait.
Et du coup, les deux peuvent être une erreur de design.
Non, mais voilà, c'est complètement ça. Hein. C'est des mecs qui décident de pas mettre de checkpoint dans les niveaux et en plus de les rendre super difficiles. Ça reste des erreurs de design.
Ouais, mais alors, par exemple, tu vois un jeu comme R-Type. Quand tu prends un coup, t'es mort. Est-ce que ça, c'est punitif ou difficile? Enfin, est-ce que
alors,
ça...
Alors, R-Type, c'est un très bon exemple. C'est un des exemples que j'allais ramener de mon expérience personnelle parce que moi, j'aime bien les shmup. Les fameux shmup. Alors que c'est un genre de jeu qui est en complète déconfiture. Enfin, je veux dire, il y a encore quelques fans, mais ça reste un jeu vraiment de niche, pour le coup.
C'est chaud de ouf.
Et c'est un jeu qui est, je trouve... Enfin, c'est des jeux qui sont extrêmement difficiles d'accès. Aujourd'hui, c'est-à-dire que même si tu es capable de comprendre le principe en 2 secondes, je veux dire, tu bouges le vaisseau et tu tires, et puis t'as une bombe, voilà, 99% des shoot'em up, ça va se résumer à ça, ça reste extrêmement difficile d'accès, parce qu'aujourd'hui, les gens qui le pratiquent ont tellement l'habitude des codes du shoot'em up, que finalement, il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas explicitement expliqués aux joueurs, et qui paraissent parfaitement naturels à un joueur de shmup bien habitué, qui fait que ben, je mets un néophyte devant un shmup, il se fait défoncer, et l'expérience de jeu est pas du tout agréable, et il a juste envie d'arrêter au bout de 5 minutes, parce que c'est lourd. Parce que le jeu est vraiment trop difficile,
ouais, mais ça,
trop
ça,
punitif,
c'est,
et ainsi de
c'est
suite.
C'est ni punitif, ni difficile. Enfin, ça ajoute pas le fait...
R-Type est un jeu extrêmement punitif.
Ah oui, mais justement, bah, attends, parce... Antix, est-ce que tu non, penses que le fait, R-Type... justement, R-Type, que tu meurs en un coup, c'est... ça
c'est
rend le jeu punitif
coup,
ou difficile?
C'est le fait que tu reviennes à un checkpoint qui est toujours à la con. C'est juste bah, ça. Hein.
Surtout, il y a des checkpoints. Gradius est vachement plus punitif qu'R-Type dans le sens où tu meurs, tu recommences au début du niveau, tu perds tous tes upgrades.
T'es sûr que tu confonds pas? Parce que, enfin, Gradius, non, tu perds tous tes upgrades, mais tu reviens à un checkpoint. Pour moi, R-Type, tu recommences tout le niveau. Hein.
Moi, c'est R-Type, tu. Ah, j'avoue
non,
que
Non, R-Type, mais, ça dépend pense... en fait. Il y a certains niveaux qui sont découpés.
Alors, ça, c'est à partir de R-Type
phases.
2.
En fait. Ouais, après, je sais pas, j'ai joué à Super R-Type. Mais Gradius, pour moi, c'est. Tu perds au 4e niveau, tu peux recommencer le jeu. Tu n'as plus d'upgrade, tu vas te faire latter dès le début.
Alors,
ah bah, pareil.
Tu peux arriver
pour
à revenir. Non, mais non, R-Type, non, parce que R-Type, en fait, alors, c'est un peu différent. Voilà, la philosophie est un peu différente. Sur les versions arcade, je parle pas de Super R-Type, du coup, je parle vraiment des versions arcade. Sur R-Type, en fait, quand tu. En gros, tu as très peu de niveaux qui vont très lentement. Et globalement, quand tu perds, t'as un checkpoint qui doit être genre au milieu du niveau.
Ouais, exactement. Et avant le boss.
Non, dans R-Type, non.
Si, j'ai fait R-Type il y a pas longtemps.
Sur Arcade.
Ouais. Bah arcade. C'est celle que c'est sur MAME, enfin sur.
Oui, non, sur MAME, donc Arcade. Bah alors peut-être sur R-Type 1, peut-être pas sur R-Type 2. Alors après,
mais
R-Type
alors
2, c'est
juste
pareil,
avant
c'est un
le
peu...
boss, hein, vraiment.
Genre, ah oui, c'est vraiment juste avant. Oui. Ce qui fait que si tu meurs au boss, théoriquement, tu reviens un tout petit peu avant.
Ah bah tu reviens un petit peu avant en fait, parce que c'est une chance de rechoper quelques upgrades.
Oui, mais alors c'est vraiment minimal. Hein.
Ah oui, non, mais vraiment, genre si tu te loupes, par contre, le boss, t'es mort. Mais, enfin, mais justement, moi, je trouve que c'est à la fois punitif et difficile.
Alors voilà, Gradius, c'est un peu différent parce que les checkpoints sont plus fréquents. Le problème, c'est surtout que dans Gradius, il y a des moments où si t'as pas un vaisseau un minimum upgradé, de toute façon, tu te fais défoncer, tu te fais désanusser, quoi.
Parce qu'en fait, dans le truc dans Gradius, c'est que la vitesse de ton vaisseau est un upgrade. Et tu te dis, aller lentement, c'est bien. Non, faut aller vite.
Bah, ça dépend en fait, parce qu'aller trop vite, c'est problématique.
Voilà, pas trop vite.
C'est.
Et tu vois, c'est d'aller vite dans Gradius.
Typiquement, un jeu comme Gradius ou R-Type ou tout ça, je mets un joueur débutant sur un Gradius ou un R-Type, il va être capable de comprendre très vite le principe. Finalement, Gradius a un système d'upgrade qui est peut-être un petit peu plus compliqué qu'un R-Type, qui finalement est très simple. Alors R-Type, tu as, on va dire, des manips un peu compliquées, parce que l'option, tu peux la manipuler, la mettre devant, derrière, l'envoyer, la lancer, enfin, c'est un peu plus technique, on va dire, comme jeu. Mais c'est pas très compliqué, je veux dire, tu regardes un mec jouer 5 minutes, t'as compris comment ça marche, finalement. Simplement, je trouve que le jeu est vraiment pas du tout accessible par sa difficulté, c'est-à-dire qu'il y a même pas un mode facile dans lequel tu pourrais prendre 3-4 coups avant de crever, par exemple.
Alors après, on oublie un détail en parlant de ces deux jeux en particulier, c'est que ça reste des jeux d'arcade qui étaient durs par choix de design aussi, parce que fallait quand même te faire payer des pièces. Fallait que tu meures et que tu mettes des pièces dans la machine. Bon, t'avais un premier niveau assez abordable pour que tu puisses te faire la main, et après, ça, tu te fais défoncer la gueule. Dans le même genre, t'as Metal Slug, qui est super dur aussi, qui est pas spécialement punitif en vrai, parce que ben, tu meurs,
tu réapparais tout de suite en plus, hein, donc c'est immédiat, ça coupe même pas l'action.
Par contre, tu prends un game over, tu dois payer.
Oui, mais d'une certaine manière, ça a une limite aussi, parce que même en arcade, si un jeu est trop difficile, ben, les gens remettent plus de pièces parce que tu réessayes trois fois, tu te rends compte que ça va plus, tu te casses.
Non, trop peu accessible. Moi, je dirais que si un jeu est trop peu accessible, il se barre. Parce que R-Type, clairement, si tu connais pas, parce que c'est un jeu, c'est du trial and error. Une fois que t'as compris les patterns d'un niveau, bon, tu traces le niveau.
Ouais.
Mais je veux. Non, mais faut la technique, évidemment. Mais je veux dire, si t'as joué assez longtemps pour connaître le niveau, tu connais comment finir un niveau, quoi.
T'es obligé d'en mémoriser une partie. Ça fait aussi partie du charme des schmup. C'est que t'as une bonne partie du jeu qui consiste effectivement à mémoriser au moins une partie du niveau. T'as une partie de réflexe, mais tu peux pas tout faire au réflexe. Il y a une partie de niveau que t'es obligé de mémoriser. Comme dans les jeux de course, hein, finalement, il y a une grande partie d'un jeu de course qui est une question de mémorisation des tracés. Ouais.
En particulier, du coup, scoring. Hein.
Le truc, c'est que un jeu comme R-Type, il est pas très accessible, mais je veux dire, le premier niveau, au début, est pas très compliqué. Et tu comprends les principes très rapidement, ce qui fait que au début il est punitif, il est exigeant, mais je dirais pas qu'il est foncièrement difficile. Après, il devient difficile parce que t'as de plus en plus d'ennemis, parce que machin, mais justement, quoi, enfin, je pense que ça se rejoint à un endroit, mais que c'est pas totalement dissocié. Enfin voilà, quoi.
Non, mais tu peux les penser, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vas les penser indépendamment, et que même sur une même série de jeux, bah, typiquement Fire Emblem, t'as des jeux qui sont plus simples que d'autres. C'est une série qui est réputée pour difficile, mais t'as des épisodes qui sont clairement plus simples que d'autres. Pourtant, la punition, quand tu perds un perso, elle est la même, tu ne le revois pas. Il y a des épisodes sur lesquels ça a plus d'impact.
Ça a toujours de l'impact, parce que si tu perds ton... Enfin, si tu perds ta Kumi sur le dernier niveau, héritage, t'es juste dans la merde, quoi.
Parce que c'est quand même... tu t'en fous, mais...
Ouais, parce que t'as d'autres persos qui sont bien stuffés, mais ça fait quand même partie des persos qui font très 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 mal. Et puis surtout, enfin, voilà, Fire Emblem est un autre exemple un peu typique de difficulté, enfin de réputation très difficile, mais en réalité, je trouve pas que le jeu soit particulièrement difficile, je trouve qu'il est juste extrêmement punitif.
Non, en fait, Fire Emblem, c'est extrêmement simple, c'est même plutôt accessible pour un tactical RPG, j'en ai connu des bien plus durs. Enfin, des biens plus complexes et qui sont pas forcément plus durs en réalité, même plus punis.
Il y en a des plus velus, si je peux me permettre l'expression. Il y a des trucs beaucoup plus touffus où effectivement c'est... Enfin, je sais pas, un Disgaea par exemple, moi je trouve ça insupportable. Il y a 330 000 paramètres à prendre en compte avant de faire le moindre truc.
Voilà, et c'est Emblem a l'avantage d'être très très clair sur les calculs et les paramètres qu'il fait généralement. Un FF tactique, je le trouve pas aussi limpide, en fait, par exemple.
Donc, vous pensez que la difficulté est directement liée à l'accessibilité du jeu ?
Non, ça, encore une fois, c'est autre chose. La difficulté, c'est juste la question de est-ce que je veux, comment est-ce que je veux que le joueur, quelle expérience je veux donner au joueur. Typiquement, les AAA actuels, en fait, c'est des jeux où tes personnages, finalement, ils meurent assez facilement. T'as même souvent du game over quand tu joues dans des difficultés classiques, mais en fait, c'est pas des jeux qui sont durs dans le sens où... Enfin, c'est quand même assez facile de rester planqué, de tirer sur les mecs, quoi. Et là, on va peut-être revenir un peu sur la punition. Donc, effectivement, il y a un petit côté un peu lié, c'est que t'as pas de punition, tu reprends directement là où t'es mort, tu t'embêtes pas.
Alors, j'interromps juste l'émission une petite seconde pour lire un message de monsieur Rémi, hein, qui dit « Je viens de découvrir l'émission ce soir, c'est super, bisous de la part de ta maman, Galaxies. »
Putain, mais il est lourd.
Donc, on remercie Rémi, merci beaucoup Rémi. Voilà, excusez-moi.
C'est quoi, c'est sur le hashtag de Jobar?
Non, c'est sur le mail de l'émission sur lequel vous pouvez écrire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier également Marianne qui nous a dit « Oui, Antic, c'est vraiment un mec super, miam miam. »
Voilà. Quoi?
Voilà.
C'est normal.
PS,
là, hein,
j'aime
c'est...
la bite.
Oh,
tout de suite.
Non, mais pour
c'est
reprendre...
ma plus grande fan, je tiens à le préciser.
C'est la plus grande fan d'Antique. Ça nous a dit que sa voix était extrêmement sexy. Qui a l'air d'être d'un grand gaillard rouquin. Bref, juste à sa voix. Hein.
Comment ça, elle avait l'air, elle avait l'air.
Bref, donc pour rebondir sur le propos d'Antix avant que je l'interrompe, effectivement, les questions de punition et d'accessibilité, la question de l'accessibilité et de la difficulté, c'est quand même quelque chose d'assez important. Effectivement, les AAA actuels, tu meurs peu. Quand tu meurs, c'est finalement pas du tout punitif, tu reviens exactement à l'endroit où t'étais. Dans le pire des cas, tu recommences la quête où t'étais depuis le début. Et il y a quasiment plus de challenge. J'avais vu un document de design d'Electronic Arts il y a quelques années qui concernait les jeux. Alors ça devait concerner les jeux Harry Potter à l'époque, donc tu vois, c'était très haut niveau. Qui disait il faut absolument récompenser le joueur tout le temps. Faut que le joueur ait tout le temps l'impression de progresser. Faut surtout pas le frustrer. Donc faut jamais être capable de perdre de machin le truc. Vous faites le truc le moins difficile possible. Alors, eux, le terme exact qu'ils utilisaient, c'est le moins frustrant possible. Alors, est-ce que la frustration est aussi un moteur de la difficulté, ou pas ?
C'est vrai que c'est plutôt une conséquence.
C'est une conséquence, mais est-ce que cette frustration-là peut être... T'as des jeux où la frustration va servir de moteur pour le joueur, typiquement Shovel Knight, quand tu te plantes, tu sais que c'est de ta faute, t'as envie de recommencer parce que t'as envie de montrer que t'es plus fort que le niveau... Et il y a des jeux dans lesquels la frustration, ça va être « Bon, de toute façon, j'arrête, je jette la manette contre le mur, c'est fini, j'en ai marre, ça marche pas, j'y arrive pas. » Voilà.
Ouais, mais ça dépend vachement de si tu trouves justement que le jeu est trop punitif. Parce que c'est un jeu qui est ultra punitif, t'as pas envie de continuer. Alors qu'à côté, un jeu, notamment comme le jeu dont on doit pas prononcer le nom, il est frustrant... Il pousse quand même à continuer. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec lui.
Est-ce qu'il est si frustrant que ça ?
Mais moi, vraiment, j'ai eu du mal avec Dark Souls. Je l'ai recommencé, je crois, 3 fois. Et j'accroche pas parce que le jeu, vraiment, est trop dur. Enfin, je trouve vraiment frustrant dans le sens où quand t'arrives devant un obstacle, t'as un pic de difficulté. Et bah, t'es niqué parce que bah, t'as plus ton stuff. Vu que ton stuff, il est là où t'es mort. Et c'est plus compliqué d'avancer. À côté de ça, quand t'es contre des ennemis qui sont plus modestes, ça donne vraiment envie. Quand tu meurs, t'as vraiment envie d'aller récupérer ton stuff, quoi, de dire putain, je l'ai pas fait à l'instant. Il y a mon stuff qui est là-bas, faut que j'aille le récupérer, faut que j'affronte ce qui m'a tué juste avant. Et c'est vraiment un moteur parce que bah t'es frustré d'être mort, évidemment. Mais d'un autre côté, tu te dis que c'est forcément surmontable vu que c'est sur ton chemin. Mais ce qui m'a fait abandonner, c'est justement des pics de difficulté. Et je pense que c'est ça le principal moteur de la frustration, mais de la mauvaise frustration, tu vois. La frustration qui te fait lâcher ta manette.
En soi, je trouve qu'il y a quelque chose de plus loin que, enfin, de plus important aussi que la simple difficulté, c'est que. Non. Oui, l'amour de ton prochain et de tes amis. Non, c'est juste que les personnes qui jouent n'ont plus le même emploi du temps qu'avant. Et un gamin qui pouvait passer 40 heures sur le même jeu pour essayer de finir un Super Ghouls & Ghosts a plus le temps maintenant qu'il bosse de passer autant de temps sur un jeu. Et au final, bah la frustration, ça va aussi être de ça. Ça va aussi être le fait qu'il n'a pas réussi à finir son jeu. Et qui se donne par exemple, enfin toi Mortal, je sais que t'as quand même un peu le temps de jouer parce que tu te le donnes, mais
c'est parce vrai que j'ai des gamins que je dois emmener au parc.
Voilà, ça va au même, c'est sûr.
On revient toujours au parc.
Mais c'est vrai que je pense au père de famille qui rentre, qui va se faire une petite séance sur sa console par exemple, de 22h à minuit vite fait. Il va pas se faire chier à jouer à un jeu difficile sur lequel il va mourir en boucle. Il veut essayer de faire un truc un peu simple, à la Uncharted, pour avoir juste une aventure et pour avoir le sentiment de vivre quelque chose. Et au final, c'est aussi ça qui fait un peu bouger le monde du jeu. Et du coup, c'est vrai que ça rentre un peu en conflit avec justement cette Dark Soulisation du jeu vidéo.
Mais attendez, parce que le père de famille, parce que je me retrouve un petit peu dans le portrait que tu dresses de ce père de famille qui rentre chez
lui le
soir,
hein,
du français moyen, faut le dire, même,
c'est vrai que... la ménagère de moins de 50 ans
la ultra méchant, tu vois.
Non mais voilà, moi effectivement je suis père de famille, donc j'ai pas forcément un temps, je travaille à plein temps, il y a pas mal de gens ici qui bossent à plein temps aussi. T'as pas toujours le temps, entre les transports, la vie de famille, le machin, de jouer effectivement à un jeu très difficile. Mais après, ça revient quand même un petit peu aussi à une question d'accessibilité. Un Bayonetta, c'est un jeu qui est difficile, mais sur lequel j'ai pris...
Qui est mauvais.
Ouais, moi j'ai pas du tout aimé. Hein.
Merci.
Est-ce qu'on peut ban Drosgar et Galaxis pour mauvais goût?
Bon bref, je prends un exemple très... Voilà, Bayonetta 2 est pas un jeu facile en soi. C'est pas un jeu très compliqué, mais je trouve que c'est un jeu qui est accessible et dans lequel on progresse assez facilement. J'entends accessible dans le sens où moi, ce qui m'agace le plus dans les jeux, c'est les jeux où t'es obligé de passer 350 heures pour commencer à t'amuser. Et ça, effectivement, c'est pas accessible à un père de famille. C'est-à-dire, quelqu'un qui a envie juste de prendre un jeu pour s'amuser, Bayonetta 2 peut très bien faire l'affaire, faut être un peu motivé, faut accepter de la frustration, faut accepter de la difficulté, faut accepter... Alors, punitif peut-être pas, parce que c'est vrai que Bayonetta est quand même plutôt généreux, pas contraignant là-dessus, voilà.
Non, t'as plein d'options d'accessibilité dans le jeu, que ce soit les objets de soins, le mode facile.
Oui, voilà, puis même
plein d'items qui t'aident aussi.
Le jeu, quand tu meurs au milieu d'un boss, le jeu te refile toute ta barre de vie, enfin le truc est quand même pas... Ça va, une fois que t'as compris comment battre le boss, basiquement, c'est juste rincer, répéter, dans le pire des cas, si... Enfin, voilà, si t'arrives à t'en sortir, quoi. Mais c'est un jeu qui est vachement accessible, alors que, je reprends un Disgaea 5, faut passer au moins déjà 2 heures à lire le manuel, faut passer 10 heures sur le tuto pour arriver à comprendre l'ensemble des subtilités, 15 heures à te prendre des lattes sur les premiers niveaux parce que de toute façon t'as pas compris exactement comment ça marchait ou c'est mal expliqué. Mais quand t'es sur un truc comme ça, oui, je comprends que quelqu'un finisse par laisser tomber très vite, et notamment la cible père de famille machin, je vais pas passer un mois entier, 2 heures par soir, à essayer de comprendre un jeu avant de pouvoir en tirer un quelconque plaisir en y jouant. Ça me paraît évident.
Ouais, alors tu vois,
4-10 Gaïa, même étudiant, moi j'en ai eu marre au bout de 10 heures de jeu. Hein.
Oui, mais après, c'est une question aussi de perception individuelle de la difficulté. On parlera un petit peu après de la perception individuelle.
Mais pour revenir à cette histoire d'accessibilité, donc moi aussi j'ai un peu joué à Dark Souls, et c'est un jeu qui, mine de rien, je pense que si tu prends le temps de bien appréhender les commandes, la façon de faire, tu peux t'en sortir, mais en fait, c'est un jeu où il faut être patient. Et moi, par contre, ce que j'avais pas du tout aimé dans ce jeu, c'est qu'en fait, il te file pas toutes les clés pour que tu puisses appréhender son système.
Ça, on est bien d'accord, et ça, c'est bien lourd aussi. Et ça, c'est un vrai problème d'accessibilité.
C'est que, en fait, dès le début du jeu, t'obtiens assez rapidement un truc qui s'appelle une humanité. Je sais pas à quoi ça sert. Ça fait monter un chiffre, mais tu sais pas vraiment ce que ça fait.
Ça fait monter le nombre d'humanités.
Voilà. Et moi, je trouve que c'est un souci, parce que c'est bien de vouloir faire des jeux qui ont demandé aux joueurs d'être capable d'être patient, de chercher par lui-même. Mais c'est comme si tu jouais à un jeu de société avec un ami et qu'il t'expliquait pas la moitié des règles. Tu vas juste être frustré parce qu'il fera des trucs que toi, tu comprends pas. Et que tu pourras pas...
En même temps, je suis d'accord avec toi, il hein, y a vraiment un gros problème, mais là c'est pas de la difficulté, c'est vraiment de l'accessibilité.
Ça crée une difficulté
artificielle
qui n'a pas lieu d'être et qui pourrait plus être évitée avec un bête tuto, et pour se concentrer sur vraiment les aspects les vrais aspects challenge du jeu, qui vont être les boss, qui vont être les ennemis un peu plus résistants, ceux qui ont des combos esquivés un peu particuliers, quoi.
Mais derrière, est-ce que tu ne crées pas, si on dit au début de Dark Souls, on fait une espèce de zone tutoriale, est-ce que tu casses pas un peu l'univers, l'ambiance, le truc, le bidule, le machin? Et d'une certaine manière, est-ce que tu casses pas un peu la découverte du jeu? Ou est-ce que c'est vraiment totalement artificiel. Moi, pour l'exemple de Dark Souls, j'ai l'impression que c'est totalement artificiel. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, on pourrait t'expliquer tout de suite à quoi servent les trucs, ça coûterait pas plus cher et ça rendrait le jeu beaucoup plus accessible.
C'est un exemple concret de ça.
J'ai un exemple.
Oui. T'appelles le plateau du prélude dans Zelda Breath of the Wild.
Mais merci.
Et que t'as beaucoup de choses dans Zelda qui ne sont pas dites dans un tutoriel.
Ils sont pas explicites.
Typiquement, capturer un cheval, je l'ai appris en allant parler à un PNJ. Comment fallait faire ? Mais ça marchait ?
Oui, non, mais c'est clair. Non, mais Zelda est un. Enfin, Breath of the Wild est un exemple absolument frappant de. Le tutoriel bien fait, c'est-à-dire tu sais que c'est une zone tutoriel parce que finalement t'es un grand garçon et tu te doutes bien qu'au début du jeu c'est une zone tutoriel, mais la quantité de choses que t'apprends le plateau du prélude, que ce soit le fait de te protéger du froid, que ce soit le fait que tu puisses faire la cuisine, que ce soit le fait que t'as des pouvoirs, que tu peux voler, que tu peux grimper, ce jeu est impressionnant. Ce qui manque à un Dark Souls, c'est peut-être ça, c'est effectivement une zone dans laquelle à un moment tu récupères une humanité et puis t'as un panneau qui dit vous pouvez brûler cette humanité pour faire ça. Cool.
Non, même avoir une description précise de ce que tu fais, parce qu'en fait, typiquement, le froid, il y avait plein de façons de le faire, et parmi elles, il y avait bouffer des piments. Bon, ils te disent clairement, ça protège du froid, mec. Ah, il y a une zone de froid juste à côté.
Non, mais même, il n'y a pas que ça. Même en testant des trucs, je veux dire, tu te radines avec une torche, et tu dis, ah putain, mais en fait, la torche, elle me tient chaud, donc c'est bon. Tu le découvres par toi-même. Moi, j'avais pas vu les piments, par exemple. Parce que je suis arrivé de l'autre côté, en fait, du truc.
Ouais, moi j'étais à côté, donc je les ai vus assez facilement.
Mais du coup, quand on fait un jeu qu'on veut difficile, quand on veut Dark Souliser un jeu...
Moi, tu vois, je pense que pour le coup, et c'est une question que je me suis posée... en jouant à Cuphead.
Oui, qui est facile.
Quoi ?
Tu as joué ?
Ouais, j'y ai joué, vite fait. Enfin, j'ai pas fini, mais je veux dire, j'ai fait le début, quoi. Le problème de Cuphead, enfin c'est pas un problème justement dans Cuphead, mais je soulevais la question sur Twitter, lourde plateforme de débat, est-ce que le fait de faire un jeu qui est exigeant, qui est difficile, ça permet pas aux développeurs d'esquiver justement la phase de tuto qui est nécessaire pour introduire les mécaniques aux joueurs, tu vois? Est-ce que ça balançait pas en mode si t'as pas réussi, c'est que t'es nul?
D'ailleurs, la phase de tuto de Cuphead est nulle à chier. Hein,
Et justement, il n'y a pas de tuto dans Cuphead. Ça te présente les touches et puis ça te balance parce que les mécaniques sont ultra simples. Donc là, ça marche. Mais dans un jeu comme Dark Souls où t'as pas réellement de tutoriel, en fait, ça pose problème. Un pote m'a répondu en disant que généralement, c'est ce que tu disais, Mortal, les gens n'ont pas envie de passer 50 ans, tu vois, dans des phases de tuto qui sont chiantes. Je disais, mais justement, le rôle du développeur, c'est de rendre ça amusant pour les gens qui ont déjà les bases, et en même temps, instructif pour ceux qui les ont pas. Qui s'est déjà plaint du premier niveau de Mario, genre du tout premier?
Personne, mais en même temps, là, on touche à une autre problématique, c'est que est-ce que le chat peut fermer sa gueule? Je crois que c'est mort.
Lourde problématique.
Je pense que c'est une lourde problématique. On touche à une autre problématique, c'est que un jeu comme Cuphead, qui est basiquement un platformer run and gun, on va appeler ça un run and gun, même si c'est quand même essentiellement du boss, c'est du boss qui fonctionne sous un mode run and gun. Enfin. C'est des mécaniques de jeu qui sont quand même simplissimes, c'est-à-dire même un débutant est capable de comprendre le truc. Un Dark Souls, t'es quand même sur du action RPG un peu poilu, qui se veut un peu pointu.
Ouais, mais un XCOM, par pointu. Exemple, tu vois.
Un XCOM, c'est ultra pointu.
Ouais, mais c'est quand même pointu, mais je veux dire, au bout de quoi, peut-être une heure de jeu, t'as compris, quoi. C'est que dalle une heure de jeu.
En plus, le tuto est pas chiant. XCOM, il faut pour vraiment tout comprendre. Pour vraiment comprendre toutes les subtilités.
Non, mais je veux dire pour tout comprendre, je veux pas dire pour master le jeu. Hein. Je veux dire pour vraiment t'amuser sur le jeu. T'as pas besoin d'y passer. Alors que Dark Souls, tu vois, tu passes à côté d'éléments. Genre l'humanité, tu vois, ce que vous disiez tout à l'heure.
Tu passes à côté de ça, t'as l'air con.
Tu passes à côté. Non, mais je veux dire, tu passes pas à côté, mais. Clairement, à part du visuel, au début, tu captes pas ce que ça fait.
Oui, on est bien d'accord.
Donc, alors qu'à côté de ça, XCOM, bon, t'as les bases, quoi, pour t'amuser. T'es pas obligé d'avoir chopé toutes les subtilités, des statistiques, des machins. Et puis ça peut faire chier honnêtement, parce que les stats, bon voilà, j'ai envie de te dire, même dans les RPG,
il y a des gens
ça fait chier
énormément, les statistiques, monsieur.
Mais je suis désolé. Moi, bon, tous les soirs, je me fais une petite séance de d'écart type et de moyenne.
Écoute, moi personnellement, c'est vrai que la loi de Poisson, je la ride un petit peu tous les soirs, c'est sympa quoi.
Non, mais voilà, je veux dire, XOM, t'as pas besoin de tout comprendre pour t'amuser, et en une heure, t'as compris les bases, et puis voilà quoi.
Je veux dire, oui, mais tu t'arriveras peut-être pas très loin dans le jeu, mais à la limite, c'est au fur et à mesure que tu vas,
oui, mais,
que tu
oui,
vas
oui,
faire
non,
les
mais
niveaux,
voilà.
Tu vas pouvoir appréhender les situations.
Je pense que le problème d'accessibilité, dans le sens où on l'évoque, c'est à quel moment tu franchis le pas, tu vois, entre je comprends que le jeu m'apprend les bases, tu vois, et je m'amuse. Entre je suis en classe, tu vois, et je suis dans le jeu, vraiment.
Bah, la problématique, elle est toujours la même, c'est entre guillemets apprendre en s'amusant, hein. On est toujours dans le même truc. Si un jour vous avez la chance d'aller dans une classe de maternelle, ce que je vous conseille de faire, alors non, pas pour ça, Drosgar.
Putain, mais je me suis dit, je vais pas la faire pour une fois, ça va être lourd.
Ça me fait
plus
plaisir.
Plus tard, Drosgar, il sera juge des enfants.
Le pire truc.
Enfin, affreux. Bref. Dans une classe de maternelle, l'objectif de la prof, elle a des gamins qui ont un niveau d'attention qui en réalité est extrêmement réduit. C'est-à-dire arriver à les maintenir concentrés 10 minutes d'affilée sur un sujet, c'est quasiment impossible. Puis en plus ils sont nombreux, je veux dire ils sont 20, 25, 30 parfois, donc c'est extrêmement compliqué. Donc une prof de maternelle est obligée de se débrouiller pour leur apprendre en s'amusant. C'est-à-dire les faire participer et se débrouiller systématiquement pour que, finalement, le contenu de son cours vienne des élèves et pas d'elle. C'est-à-dire qu'elle, finalement, elle a un truc à leur apprendre, mais il faut qu'elle arrive à se débrouiller pour que ce soit les élèves en participant qui construisent le truc. Ce qui fait qu'en fait, le prof de maternelle que je connais m'expliquait, en fait, ils savent jamais où va partir leur cours. Ils savent qu'ils doivent faire, je sais pas, le son S ou une connerie comme ça, mais ils savent jamais dans quel sens les gamins vont partir. Et en fait, ils sont obligés de s'adapter en permanence pour arriver à guider les enfants pour qu'ils comprennent que le son S, ça fait ce, comme dans Serpent, comme dans Si, comme dans Mi, ben, bref. Tout en se débrouillant pour que ce soit les gamins qui apportent ces informations-là, et que on se dise, ah bah tiens, on va se mettre à tracer les lettres et tout ça, mais il faut que ça vienne naturellement aux enfants. Et finalement, c'est plus des sortes de guides. Et je me dis qu'un bon game designer, ça devrait être ça. Ça devrait être quelqu'un qui soit capable de te guider, de sorte à ce que ce soit, tu es toi en tant qu'élève, ou en tant que joueur, que ce soit toi qui ait l'impression d'aller construire ton expérience de jeu, alors qu'en réalité, t'es parfaitement sur rail et qu'on te montre exactement ce qu'il faut faire. Mais voilà, on te le montre sans vraiment te le montrer. On t'encourage à le faire sans vraiment... Portal 2, bah, c'est un excellent exemple. Moi, j'avais Mega Man X en exemple de niveau tuto qui te guide, mais qui te laisse parfaitement faire.
Lequel, pardon ?
Mega Man X.
Ah, jamais fait.
C'est pas Hentai Galaxy, ça.
Le tout premier niveau de Mega Man X, en fait, bah, tu commences par... t'avances, de toute façon, tu veux pas aller à gauche, donc t'avances vers la droite. Voilà, donc faut avancer de gauche à droite. Puis tu croises un ennemi, bah tu peux lui tirer dessus avec le bouton de tir. Le bouton de tir, tu l'as vu à l'écran titre juste avant. Donc tu sais que tu peux tirer, parce que tu l'as vu à l'écran titre juste avant. Donc tu tires, ça élimine l'ennemi. Et puis le deuxième ennemi qui arrive, et ben quand tu tires, il est trop grand, ça passe en dessous, donc faut sauter. Et ben donc tu peux sauter et tirer en même temps. Et c'est que ça, hein. Le premier niveau de Mega Man X, c'est une leçon de game design extraordinaire, parce que tout en t'amusant, tu vas affronter des ennemis, tu découvres le jeu. Et on t'apprend toutes les bases du truc sans rien te dire. Maintenant, ça reste quand même un jeu ultra simple. C'est pas Dark Souls, c'est pas un RPG, c'est pas un tactical. Je sais pas si dans un Fire Emblem on serait capable de faire un truc aussi simple que ça.
Ça me paraît compliqué. Moi, le truc le plus proche de ce que j'ai vu, c'était dans le tout premier sur GBA. Au lieu de te mettre des écrans qui t'expliquaient c'était quoi les mouvements, essayer de mettre ça dans un espèce de scénario, quoi.
Oui, puis en plus, on te disait fais bouger machin à cet endroit-là et tu pourras faire ça.
Voilà, ça, c'est... En fait, plus t'avançais dans le scénario de tutoriel qui faisait 10 missions, moins le jeu te guidait. Parfois, il te donnait juste une indication. Bon, bah, là, tu feras attention, il y a les armes, le triangle des armes, il est inversé.
Yeah. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on te... Mais c'est très progressif, mais c'est pareil, faire les 10 premières missions du premier Fire Emblem sur GBA, t'en as pour 2-3 heures quand même.
Ouais, ça te prend quelques heures, et puis surtout, une fois que tu as fini le jeu et que tu les refais, en fait, c'est juste un calvaire.
Tout à fait, mais après, c'est, bon,
heureusement,
c'est
y a moyen de la galère. Il y a moyen de le couper, ce passage, et de passer en difficile direct. Une fois que t'as fini le jeu, mais... c'est pas facile, et pourtant, Fire Emblem, pour un tactical, c'est probablement un des plus simples qui soient. Hein.
Bah, après, moi, j'ai peu d'expérience dans le tactical, donc je saurais pas te dire, parce que le principe est à peu près toujours le même, mais c'est vrai que le peu de fois où j'ai tutoyé un Final Fantasy Tactics, j'ai trouvé ça insupportable. Honnêtement, c'est ultra aride, tu comprends rien, enfin, moi, j'ai rien bité, alors que pourtant, bon, Fire Emblem, j'arrive à m'en sortir.
Fire Emblem a le bon goût d'être accessible et puis il te donne toutes les indications dont tu as besoin. Tu sais, dans le menu, en cliquant sur les stats, tu peux savoir à quoi elle correspond et ce qu'elle va faire sur le jeu. Donc t'as pas de surprise. Alors que dans d'autres tactical, t'as des trucs au nom un peu imbitables.
Engouement 15 ADS. Points.
Non, mais tu vois, des trucs type ADF ou ADS, tu sais pas à quoi ça correspond. Alors que défense, résistance, bah, je comprends qu'il va y avoir, ça me donner de la défense. Résistance un peu moins, et en voyant, en allant dessus, je vois que ça correspond à la magie, en fait c'est la même chose.
Oui, tout à fait, mais t'as effectivement l'indication, et puis t'as même les indications sur l'écran dans un Fire Emblem, c'est-à-dire que quand tu vas t'approcher d'un ennemi pour aller lui taper dessus, on te dit bah tu vas lui faire 24 de dégâts, il va te faire 12 de dégâts, et du coup tu vas le tuer d'un coup, ou au contraire tu vas mourir. T'as quand même énormément de choses indiquées, c'est très prédictif, alors même si t'as une petite part de hasard avec les esquives qui sont un peu au pif, et les critiques qui sont un peu au pif aussi, tu sais quand même à quoi t'attendre dans 80% des cas.
Ouais, voilà, donc
ça reste. Voilà, t'as pas besoin d'avoir fait Matsup pour être capable de finir une partie de Fire Emblem. Ce qui est un autre problème. J'avais une petite dernière question à vous poser avant qu'on.
C'est quand même beaucoup mieux pour accessibilité. Hein.
De quoi? De
pas avoir besoin d'avoir fait Matsup.
Bah, moi, je me dis que le problème, mais on l'a quand même très largement évoqué durant cette heure. Le problème du caractère punitif, difficile ou difficile d'accès d'un jeu, ça regroupe plusieurs facettes de pas tout à fait la même chose. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais j'ai l'impression que c'est plusieurs facettes du même objet. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est trois éléments de game design qui doivent fonctionner correctement, et s'il y en a un qui commence à déconner, ça va affecter de toute façon l'expérience utilisateur, et ça va être perçu par la majorité des joueurs comme étant des problèmes de difficulté, et pas forcément des problèmes d'accessibilité, ou des problèmes de punitivité, même si ce mot n'existe pas.
En fait, on a trop posé la difficulté en tant que... sans vraiment expliquer ce que c'était, alors qu'en fait, ça regroupe plein de problématiques, et même je peux aller plus loin en disant que la difficulté ça va dépendre des joueurs. Ma copine elle me dit qu'un jeu de plateforme elle aurait beaucoup de mal à y jouer, alors pour moi c'est presque une seconde nature. Et alors j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais Gamekult a publié un reportage sur les gens handicapés qui jouent aux jeux vidéo.
Oui, j'aurais bien aimé le lire aussi, j'ai failli m'abonner au premium juste pour le lire parce que ça avait l'air vraiment très bien.
Voilà.
Putain, je sais pas que vous avez fait un reportage sur Galaxis.
C'est drôle ça, bravo.
Ah oui, c'est amusant.
Ah, félicitations, se moquer des handicapés, bien joué.
Typiquement, quelqu'un d'handicapé moteur va lui demander de... Je pense que même à Mario Bros, il aurait du mal. Enfin, ça dépend son type d'handicap. Je pense qu'il serait capable d'avoir du mal à gérer un Mario Bros.
Ouais,
ouais, mais après, c'est hors du jeu, ça c'est pas... Je veux dire, c'est pas...
Bah,
c'est pas alors, spécifique
c'est lié
au jeu en lui-même.
Quelque part, la personne,
oui.
Selon le type de personne, un jeu ne sera plus ou moins difficile. Le guide good que les gens balançaient au mec qui n'arrivait pas à jouer à Dark Souls, et du coup, il est très pédant quand il repense, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas bons à cette logique, par contre, qui seront capables de te faire des niveaux 10 à Tetris avec des combos très longs... facilement, je sais pas moi, gérer très facilement d'autres types de jeux, être très à l'aise avec la gestion des stands des RPG, mais finir un Bayonetta pour eux c'est trop compliqué quoi. Chacun a son style de jeu.
Mais alors justement, moi c'est la question que j'ai envie de vous poser là, ça nous fait un embrayage parfait pour la dernière question qui va se faire sous forme un petit peu de tour de table. Est-ce que chacun vous pouvez me dire quels sont justement les types de jeux sur lesquels vous avez l'impression d'exceller, ou effectivement vous avez l'impression que c'est presque une seconde nature et que finalement même si on vous met un jeu réputé très difficile de ce type-là, vous vous en sortez, mais comme un chef, deux doigts dans le nez, un doigt dans le cul, et vous comprenez pas pourquoi on dit que c'est difficile, alors qu'il y a d'autres jeux sur lesquels, finalement, même la version Fisher-Price, My First Game, bah vous y arrivez pas. J'aimerais commencer par Antix, est-ce qu'il y a un type de jeu qui est vraiment ta bête noire, où tu sais que de toute façon, si tu l'entames, même si c'est le jeu le plus simple de sa catégorie ou de son genre, tu sais que tu vas en chier des ronds de chapeau, et il y a des jeux sur lesquels les gens vont te dire « mais c'est méga dur », et en réalité, toi, tu vas te balader ta race.
Ah, moi, clairement, tout ce qui va être jeu de simulation à la FIFA, à la Gran Turismo, C'est pas des jeux qu'en fait ils vont être difficiles, mais c'est des jeux sur lesquels j'aurais du mal à comprendre une logique. Ah, ça a coupé. J'aurais du mal à bien maîtriser le style de jeu et à jouer de façon correcte. C'est plus ce genre de jeu qui va me poser problème. Alors que par contre, je reste quand même mauvais au shoot, hein. Je me fais latter comme tout le monde. C'est pas un souci pour jouer. J'aime beaucoup tout ce qui est jeu type arcade, donc avec plutôt accessible, avec du challenge. Type action, ça m'empêchera pas d'être mauvais dessus. Mais ça dépend, tu vois. Enfin, je peux être mauvais sur un jeu, mais quand même apprécier le genre.
Non, mais après, ça, je suis très 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 mauvais en schmup, mais j'aime bien ça. Ça parce que c'est une espèce de. Pendant très longtemps, j'ai négligé le shoot'em up parce que je me disais, une fois que t'en as fait un, tu les as tous faits, et en fait, pas vraiment. Et j'avais jamais compris pourquoi les joueurs de shoot'em up mettaient tant d'emphase, par exemple, sur le côté audio. Un shoot'em up, on va dire, faut que ça ait une bonne musique. Je dis, quelle est l'importance que ça ait une bonne musique si, de toute façon, la seule chose que tu fais, c'est de tirer sur des trucs. Et en fait, j'ai compris en y jouant un petit peu plus, le shoot'em up, c'est une espèce de trip audiovisuel, en fait. C'est-à-dire que tu es dans un état de concentration qui est très particulier, dans lequel la musique t'accompagne dans cette espèce de trip audiovisuel, comme si tu prenais des champis, quoi, d'une certaine manière. Tu te retrouves dans un état de concentration presque second, dans lequel tu vas faire des choses un peu particulières. Ça n'empêche pas que je suis très très mauvais au schmup, mais je trouve ça intéressant d'essayer d'atteindre ce niveau de concentration qui fait que t'as la musique, le son, l'image, la répétitivité du truc qui t'entraîne dans une espèce de boucle boucle de conscience très particulière. Bref.
Tu ne fais qu'un avec le jeu.
Bah, c'est presque ça. J'ai beaucoup beaucoup joué à Gradius 2, notamment, sur arcade. Et en fait, au bout d'un moment, tu ne vois plus les dragons, les boules de feu, les machins, les lions, les trucs. Tu vois juste les hitbox, tu vois juste ton tir, et t'as la musique qui t'entraîne dans cette espèce de rythme un peu lancinant, qui doit bien correspondre au rythme du jeu, dans lequel tu sais que ton laser va tirer exactement au rythme des bases du jeu, et ainsi de suite. C'est vraiment particulier, hein, quand on commence à s'y mettre un peu, c'est extrêmement agréable. Le seul truc, c'est que ça met beaucoup de temps pour arriver à comprendre pourquoi les gens apprécient ça et à atteindre cette espèce de niveau de conscience.
Karuga fait ça très très bien.
Ce niveau de conscience. On dirait que tu parles d'une secte.
Bah, c'est presque ça. Hein. C'est
et atteindre ça. Un nouvel niveau de conscience.
La secte des joueurs de schmup. Galaxies, puisque tu fais le mariole, et je demanderai à ton petit camarade Drosgar après, est-ce qu'il y a un type de jeu sur lequel tu galères vraiment?
Alors,
même sur les jeux réputés faciles, et un type de jeu où tu galères pas du tout, même sur les jeux réputés difficiles?
Galère vraiment, je vois pas trop. c'est ultra vantard. Non, mais le truc, c'est que je sais pas. Je galère pas, mais je sais que j'ai du mal, par exemple, avec les RPG. Parce que, bah, il y a plein de notions différentes, quoi. Genre, du coup, ça me saoule un peu de devoir tout apprendre avant de m'y mettre. D'un autre côté, enfin, j'aime bien ça, tu vois, mais genre je galère. Et par contre, ce que j'adore, moi, c'est les jeux comme Portal, machin, les puzzle games,
ouais,
les first person puzzle game action RPG. Parce que, enfin, j'adore ça, et vraiment, genre, même certains qui est genre The Witness, même si j'ai un peu galéré, j'ai moins galéré que d'autres, d'après ce que j'ai compris, donc du coup, je pense que. Enfin, je sais pas. J'adore ce genre de jeu et je pense que vraiment, c'est le genre de jeu pour lequel tu fais. Toute ma vie mène à ces jeux.
Toute ta vie mène à ces jeux. Drosgar.
Non, vraiment, c'est sympa.
Bah, moi, c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse de Galaxies. Genre, j'adore les jeux vidéo, mais je suis nul partout.
Et alors, je vois pas le rapport avec Galaxies.
Mais lui, il a commencé en disant bah, moi, j'ai pas de difficulté. Alors que, bah, moi, genre, c'est plutôt difficulté sur tous les genres. Il y a pas vraiment de genre sur lequel je vais être bon.
Il n'y a pas un genre sur lequel t'es quand même beaucoup plus à l'aise que les autres et où...
Les jeux Pokémon.
Mais non, mais même pas en plus, parce qu'en soi, genre, je fais l'histoire, mais après, dès que ça commence à devenir un peu stratégique, je suis une grosse brêle. Et
ah
pareil...
non, mais qu'on en parle, par contre, les combats dans Pokémon, faut arrêter, c'est nul, genre...
Non mais voilà, j'aime bien les jeux Pokémon, mais c'est pas bon. Et par exemple, j'adore les jeux de stratégie, mais je suis quand même une grosse bite. Alors, je suis encore plus une grosse bite quand c'est des STR, mais quand c'est au tour par tour, j'ai le temps de réfléchir, donc ça peut aller. Mais j'ai jamais été très bon. Après, comme Antix, c'est vrai que tout ce qui est jeu de sport, par exemple, ça c'est pire que tout, je suis incapable de faire un truc. Parce que déjà, ça me fait chier de base, donc j'arrive pas à me concentrer. Un jeu de foot, je trouve pas d'intérêt, t'as bien vu quand c'était vu...
Oui,
voilà, et que je l'ai mis la misère.
Tu m'as mis la misère. Oui, bah ça arrive.
Oui, alors que j'aime pas ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de jeu sur lequel... Je pense que je suis quand même meilleur sur des jeux qui vont être au tour par tour ou un peu plus calmes, comme des RPG ou des jeux stratégie, plutôt que sur des jeux qui vont être plus basés sur des réflexes, comme des jeux d'action ou des jeux de plateforme. Je vais pas être mauvais fondamentalement sur ces jeux-là.
Il n'y a pas forcément un... C'est plus un style de jeu qui te convient pas qu'un type de jeu. C'est-à-dire que les jeux d'action, de manière générale, les jeux de réflexe, les jeux un peu arcade, vont pas forcément te convenir, alors que les jeux plus calmes, plus posés, vont peut-être plus te scier.
Je dois être un peu mou, en fait, mais c'est ça.
C'est... Oui, tu es tout mou. Zergy, est-ce que toi aussi, tu as des jeux où la difficulté te pose vraiment aucun problème et des jeux sur lesquels la difficulté te pose de très gros problèmes?
J'aurais beaucoup de mal à répondre.
Merci, Zergy. Voilà.
Et toi, Tonton Mortal, alors?
Ah, voilà, merci de demander.
Bon, alors, les RPG, parce qu'on sait que tu as du mal à passer la cinématique d'intro avant de s'endormir.
Oui, déjà. Non, mais alors, vous rigolez, mais même les RPG qui sont réputés ultra accessibles, ultra basiques, machin, je galère, quoi. Mais je galère vraiment. C'est pas une blague, hein. Je dois avoir une espèce de handicap. C'est-à-dire que même des trucs comme Secret of Mana ou Chrono Trigger, des trucs comme ça, mais je suis en méga yinche devant, quoi. Pourtant, ça a pas l'air compliqué, tout ça, mais j'ai tellement l'impression d'être dépassé par le système de jeu, en fait. C'est-à-dire de pas être capable de maîtriser tous les paramètres.
Alors que Chrono Trigger, il est quand même pas très compliqué.
Bah oui, il est pas très compliqué, mais je sais pas pourquoi. Voilà, Chrono Trigger est pas le pire. Hein. C'est Secret of Mana, par exemple, au début ça allait très bien, puis après il y a eu les magies, et là j'ai plus rien compris. mais c'est vraiment ça, j'avais l'impression de plus du tout maîtriser les paramètres du jeu. J'ai l'impression qu'on m'avait appris un truc, c'est tu peux te défendre avec une épée, machin. Je dis, ouais, c'est cool, j'ai une épée, je peux taper. Moi ça va, une épée, taper, c'est bon, je maîtrise.
Maintenant je peux faire un sort de feu, hein.
Ah putain, mais
il y a aussi le sort de glace qui ne marche pas contre
non,
les mêmes ennemis.
Mais arrêtez. Voilà, et là j'ai l'impression à un moment c'est que le jeu devient. C'est pas trop difficile, c'est trop compliqué pour moi. C'est-à-dire que mes faibles capacités intellectuelles sont plus capables d'aller m'adapter à la situation. J'ai l'impression qu'il y a trop de paramètres. Et surtout, j'ai l'impression que je ne maîtrise pas tout. Et moi, c'est ça qui me gêne beaucoup. Et à contrario, il y a des jeux qui, même quand ils sont réputés très difficiles, ne me posent absolument aucun problème. Typiquement F-Zero GX, qui est un jeu qui est réputé extrêmement difficile. Ben moi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec. Le jeu est pas évident, hein. J'ai pas dit que je traversais le jeu deux doigts dans le nez, un doigt dans le cul. Mais j'ai jamais trouvé ça extrêmement difficile.
Ce qui laisse pas beaucoup de doigts pour la manette.
On est bien d'accord. Mais c'est le genre de jeu où j'ai absolument aucun problème. Pareil, Quake 3, on s'est amusé avec un de mes anciens colocs, on s'était lancé un défi. C'est finir Quake 3 en mode Nightmare, donc le mode solo de Quake 3 Arena en Nightmare, juste au touchpad. Il n'y a pas souris, clavier. Clavier, touchpad.
Pourquoi faites ce genre de truc?
Parce que on s'emmerdait, quoi.
Triste.
C'est triste. Et du coup, je maîtrise sa race Quake 3 même au touchpad.
Surtout, ce qui vous donne comme info, c'est qu'il y avait un mode solo dans Quake 3.
Mais il y a un mode solo dans Quake 3 qui est pas évident du tout d'ailleurs, surtout en mode Nightmare. Enfin, dans le niveau de difficulté maximum, les bots sont quand même assez balèzes. Mais au touchpad, j'ai fini par y arriver. Donc voilà, donc je sais pas si c'est particulièrement que j'ai une affinité pour les jeux d'action ou les jeux à l'action totalement frénétique, mais ça me pose nettement moins de problèmes. Et tu vois, pareil sur les shoots, je préfère les shoots un peu excités, façon R-Type, c'est presque trop calme. J'aime bien le jeu sur PC Engine, là, comment il s'appelle, Blazing Lasers, qui est un jeu qui va vraiment très vite, ça me va très bien. R-Type me va un peu moins bien parce que je le trouve trop lent, en fait, ça va pas assez vite,
oh, ça défile
pas
hein.
Assez vite. C'est pas tellement de la boulette, Blazing Lasers, ça n'a pas tellement énormément de boulettes à l'écran, mais ça va très vite, le jeu défile vite, les ennemis avancent vite, le truc avance vite, et moi j'aime bien quand le truc me prend dans un rythme un peu bourrin comme ça, moi ça me va bien. Moi j'aime bien quand ça bourre. Voilà. Ça fait plaisir.
Sur la difficulté, moi j'avais un petit truc que je voulais rajouter. C'est que pour moi, ce que je considère comme étant le signe d'une bonne difficulté dans un jeu, notamment des jeux d'action, la stratégie, c'est pas quand j'enchaîne les game over. Je vais peut-être estimer que la difficulté est mal dosée, mais c'est quand j'arrive à terminer le niveau avec 3 points de vie et beaucoup de sueur dans les mains et sur le front.
Oui, c'est le bon signe d'un jeu réussi.
Là, c'est satisfaisant, tu sens qu'il y a eu une difficulté, tu l'as passé, et en plus, quand tu réussis du premier coup, tu peux dire je l'ai passé, et en plus, je l'ai réussi en m'adaptant, en improvisant.
First try, quoi.
Il y a un certain plaisir à faire ça, et c'est aussi pour ça que moi j'aime bien les jeux difficiles avec du challenge. C'est pour ce sentiment de réussite derrière, d'avoir passé un obstacle en ayant quand les règles du jeu sont justes.
Mais c'est sûr que c'est largement plus gratifiant. On pourrait refaire un débat sur le côté gratifiant de la difficulté, parce qu'effectivement on a à peine effleuré le sujet. J'en profite juste pour lire un dernier message de Ramsey qui nous dit « Eh bien voilà, putain. Galaxis, tu bafouilles moins que notre Premier ministre, au moins. »
Quoi ?
Bref, et qui nous précise qu'effectivement, en parlant de tutos de jeu, il y a des simulations type Arma 2, Arma 3, où les tutos sont absolument à mourir tellement ils sont chiants. Et je veux bien le croire, parce que Arma, c'est des jeux super pointus, mais qui doivent être absolument
gros bisous, Rémi.
Voilà, gros bisous, Rémi. On te kiffe. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine, et normalement la semaine prochaine on devrait parler de Fire Emblem Warriors.
Okay. Si tout va bien.
En japonais.
Un très bon jeu.
On aura téléchargé le pack de voix japonaise pour parler en japonais.
Nous aurons téléchargé le pack de voix japonais. J'en profite pour vous dire que ce vendredi soir, en direct sur Twitch, on fera du Cinemora EX, qui est un gros shooter de bourrin en coop avec Muse.
Ouais.
Le mode coop est super sympa. Donc c'est vraiment rigolo. Il y a moyen qu'on arrive à finir le jeu en plus, parce que c'est fini en trois quarts d'heure, une heure à peu près. Ce qui est plutôt long d'ailleurs pour un shoot. Mais voilà, on va par contre zapper toute l'histoire. Question principe.
Et en fait, une histoire, ça ne sert à rien dans un jeu de shoot. Le seul intérêt du jeu de shoot, c'est d'esquiver les boulettes.
C'est de shooter. C'est de shooter.
Exactement.
C'est le seul... voilà. Alors ça dépend en fait. Quand t'es très bon au jeu de shoot, tu scores. Quand t'es très mauvais, t'essaies de survivre.
Oui, non, mais faut commencer par la base. Hein.
On va commencer. Non, mais faut commencer à ramper avant de marcher, on est bien d'accord. Bref, donc, on se retrouve vendredi sur Twitch et la semaine prochaine dans le Dojo Bar. Bisous, ciao tout le monde.
Bye.
Salut.
Zoubi.
Salut.